Voilà, mes très chers amis, merci chaleureusement de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. Ça fait exactement 26 semaines, c'est-à-dire un semestre, une demi-année, que j'ai parlé ici même. C'était le 7 mai, on est le 5 novembre, il n'y a pas une symétrie parfaite. La période qui va du 7 novembre au 7, du 5 novembre au 7 mai est toujours un peu plus courte à cause du mois de février. Mais aujourd'hui, ça fait vraiment exactement une demi-année que j'étais ici même. Et croyez-moi, ce fut un grand plaisir. Et aujourd'hui, c'est de nouveau avec grande joie que je me retrouve parmi vous. Merci à Raymond pour ses paroles d'introduction, chaleureuses comme d'habitude. Merci aussi au jeune Quentin qui va faire passer les diapositives au fur et à mesure de l'avancement de ma prédication. Ce matin, j'aimerais, dans le fond, vous rappeler quelques vérités fondamentales au sujet de Dieu. J'aimerais particulièrement que nous nous souvenions que Dieu est une personne. Dieu n'est pas qu'une force impersonnelle, un grand organisateur, c'est véritablement une personne. Pour nous, mais aussi nous chrétiens, mais pour les non-chrétiens partiellement aussi, il est possible de connaître les caractéristiques de Dieu au travers de trois moyens. En contemplant la nature, par l'expérience personnelle et en lisant la Bible. La nature, cette belle nature dont nous avons joui magnifiquement au mois d'octobre avec ses couleurs merveilleuses des forêts, cette nature, elle témoigne du génie de Dieu. Uniquement en contemplant la nature, on peut avoir la perception de l'existence de Dieu. Cette nature témoigne de son immense intelligence, de son goût pour l'harmonie. Dieu y aime ce qui est beau, de son goût pour l'esthétique. En admirant un paysage grandiose, et il n'en manque pas dans la région, on ne peut s'empêcher de songer à ces grands attributs de Dieu. Pour ce qui est de l'expérience, de très nombreux chrétiens ont déjà expérimenté des caractéristiques de Dieu dans leur vie personnelle. Parfois, ils ont assisté à l'accomplissement de miracles. Remarquez que ça n'arrive pas tous les jours, c'est vrai, mais quand même, certains chrétiens ont déjà vécu de véritables miracles dans leur vie. Il arrive même que sans même la connaissance de l'Écriture, Dieu parle, notamment aujourd'hui, à des musulmans auxquels il se révèle au travers de rêves. Ces gens n'ont peut-être même jamais lu ni le Nouveau Testament, ni l'Ancien, et pourtant Dieu leur parle au travers de rêves. Mais quand même, mes chers frères et sœurs, c'est quand même au travers de l'Écriture, au travers de la Bible, que nous pouvons le mieux connaître Dieu et ses attributs. Dieu est d'abord fondamentalement trinitaire. Ce terme de trinité n'apparaît pas dans l'Écriture. Il est utilisé par un père de l'Église, comme le nomment les catholiques, Tertullien, au IIe siècle, hein, c'est au IIe siècle qu'apparaît ce mot de Trinité dans sa bouche. Mais l'Ancien Testament et le Nouveau nous présentent clairement, sans utiliser le mot de Trinité, nous présentent clairement un Dieu unique, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette Trinité apparaît en filigrane dès le premier verset de la Bible. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au verset 1, il est écrit ceci. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Vous le connaissez tous, ce verset. Mais selon la plupart des commentateurs, le texte hébreu dit en réalité « Au commencement, les dieux, au pluriel, Elohim, les dieux, créa au singulier. » Alors la traduction littérale serait « Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. » C'est un pluriel qui est suivi d'un singulier. Et là, dès le premier verset de la Bible, apparaît la figure du Dieu trinitaire. Il est unique, mais en trois personnes. Plus loin, toujours dans le même livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 2, l'existence de la forme trinitaire est affirmée sans ambiguïté. Puisque nous lisons ceci, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » C'était après l'épisode de la chute. Mais voyez, c'est extraordinaire. Dieu ne dit pas, « Voici l'homme est devenu comme moi pour la connaissance du bien et du mal. » Il dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Même la traduction française la plus simple permet d'accéder à cette vérité. Jésus lui-même atteste la grandiose vérité de la Trinité en ordonnant à ses disciples, peu avant son départ pour le ciel, de faire de toutes les nations ses disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 13, Paul énonce ainsi ce qu'on appelle la bénédiction apostolique, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Les trois personnes de la Trinité sont mentionnées, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. La Trinité, mes chers amis, se reflète même dans de nombreuses réalités humaines, sociales et naturelles. Avec son corps, son âme et son esprit, l'être humain est aussi en quelque sorte Trinité. Tous nous avons un corps, une âme et un esprit. L'espace compte trois dimensions, la largeur, la hauteur, la profondeur. Bon, vous avez de grands physiciens aujourd'hui qui disent qu'il y en a peut-être 26 à 28, mais ça c'est une autre affaire. L'eau, selon la température, ou H2O, selon la température à laquelle est confronté cet élément, peut prendre la forme liquide, gazeuse ou solide. Trois éléments, c'est toujours l'eau. Mais elle peut être liquide, solide ou gazeuse. Plus subtil peut-être, dans tous les pays imprégnés de culture chrétienne, mais aussi dans un certain nombre d'autres, le pouvoir étatique est toujours subdivisé en trois pouvoirs. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Ça, c'est un reflet de cette trinité divine. C'est la fameuse théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Et ce qui est extraordinaire, la Trinité permet de concilier l'unité et la diversité. Ça, c'est un des grands héritages du christianisme. Cette Trinité permet de concilier l'unité et la diversité. Elle permet de dépasser ce grand dilemme, de le transcender, unité-diversité. Par exemple, pour les anarchistes, la pluralité, le pluriel, la diversité l'emporte toujours sur le singulier, sur le un, sur le collectif. C'est l'être humain, l'ego humain qui est érigé en valeur suprême. Chacun fait ce qu'il veut. Même le peuple d'Israël, autrefois, a connu une période, j'ai une fois fait rire, des collègues directeurs de gymnase, d'école de commerce en Suisse, parce que nous étions confrontés à une situation d'anarchie, et je leur ai dit, écoutez, même le peuple d'Israël autrefois avait déjà connu ça, parce qu'il est écrit quelque part, en ce temps-là, chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. Donc on voit là, vous avez nettement une domination de la spécificité de chacun, de l'individualité, des désirs de chacun, mais cela au détriment du groupe, au détriment du groupe. À l'inverse, les totalitaires ne jurent que par la primauté du collectif, du « nous » sur le « je ». Et ce qui est extraordinaire, la Trinité permet de rendre, dans le fond, justice aussi bien aux impératifs de chaque individu qu'aux impératifs de la collectivité. un immense apport de la Trinité à notre société. Contrairement à ce que prétendent certains courants du christianisme, les trois personnes de la Trinité sont égales par leur essence. Donc, elles ont des mêmes attributs. Les attributs de Dieu sont en même temps les attributs de Jésus-Christ et sont aussi les attributs du Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais, dans le fond, vous montrer quels sont les grands attributs de Dieu, mais aussi les attributs de Jésus-Christ et les attributs du Saint-Esprit. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter les attributs que je qualifie de théologiques. Dieu a des attributs théologiques. On pourrait même presque dire philosophiques. Il a des attributs théologiques et philosophiques. Mais ensuite, il a aussi des attributs en tant que personne. En tant que personne. Voyons tout d'abord quels sont ces attributs théologiques. Vous les connaissez tous par cœur. Ce que je vais vous dire maintenant relève de la plus grande des banalités. Tout ce que je vais vous dire, vous le savez par cœur, mais parfois, vous savez, les grandes vérités sont simples et il est bon de les rappeler. Qui est Dieu? Quels sont ses plus grands attributs? Le premier, j'ai essayé de hiérarchiser, peut-être pas en termes d'importance, mais en termes de cohérence et de logique. Quel est le premier attribut de Dieu? Qu'est-ce qu'il est d'abord? Eh bien, il est d'abord « je suis ». Il est. Je suis. Dieu est Yahvé. Dans le mot Yahvé, vous avez la racine du verbe être en hébreu. Dans Yahvé, il y a la racine du verbe être. Vous connaissez tous ce magnifique passage des Écritures dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 14 où nous pouvons lire ceci. Dieu dit à Moïse, vous vous souvenez l'épisode du buisson ardent, Dieu dit à Moïse. Alors, il se présente, Dieu se présente. Et puis, Moïse a peur, évidemment, être confronté à Dieu, c'est vraiment une chose absolument à la fois terrorisante, majestueuse, et qui relève de l'exception. Alors, Dieu dit, « Je suis celui qui suis ». Quand il se présente à Moïse, il dit, « Je suis celui qui suis ». Il ne dit pas, « Je suis Yahvé ». « Je suis celui qui suis ». Et Dieu ajoute, à l'intention de Moïse, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis », Dieu se qualifie lui-même ou s'appelle lui-même « Je suis », « celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Il n'a ni commencement ni fin, il est éternel, Dieu est incréé, il a toujours existé. Cela dépasse l'entendement humain, pour nous toutes choses ont une origine, un développement et une fin. Mais Dieu est incréé, il est éternel. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Ensuite, Dieu est vivant. Le livre des Juges, au chapitre 8 et au verset 19, précise ce que nous savons tous, l'éternel est vivant. Ensuite, il est unique, immortel et invisible. Un seul verset de la Bible nous le confirme. C'est le verset 17 du premier chapitre de la première épître à Timothée qui nous apprend que Dieu est simultanément unique, immortel et invisible. Je lis ce verset. « Au roi des siècles, immortel, invisible, Jésus-Christ a été visible, mais Dieu le Père est invisible, invisible, seul Dieu, là on insiste sur l'unicité de Dieu, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Ensuite, ce Dieu est immuable. Immuable. L'apôtre Jacques parle du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Épître de Jacques, premier chapitre, et verset 17. Il est ensuite omniscient. C'est une de ses toutes grandes caractéristiques. Il est omniscient. Il sait absolument tout du passé, du présent et du futur. C'est vraiment l'un des tout grands attributs de Dieu. Le psaume 139, dans les versets 1 à 6, donne une magnifique description de cette omniscience de Dieu. Éternel, c'est David qui s'exprime, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. est encore le plus extraordinaire. Car la parole n'est pas sur ma langue, donc avant que je ne m'exprime, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement, à l'avance. Ce Dieu, malgré les apparences du contraire, à cause de la souffrance qui règne dans ce monde, à cause du mal qui déferle, et qui, dans le fond, sont autant d'indices qui peuvent laisser penser le contraire. En dépit de ces apparences, Dieu est omnipotent. Vous avez des dizaines et des centaines de versets de l'Écriture qui insistent sur l'omnipotence de Dieu. J'en choisis un seul, que vous trouvez dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 19 et au verset 26. Jésus dit, à Dieu tout est possible, tout. À Dieu tout est possible, n'importe quel miracle. Ce Dieu est aussi parfait. Les œuvres de Dieu le sont aussi. Sa personne est parfaite et ses œuvres le sont. Aussi là une référence biblique. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Deutéronome chapitre 32 et verset 4. Ensuite, c'est le Créateur ultime de toutes choses. Bien sûr que Dieu a créé les cieux et la terre, il était à l'origine de l'univers. Je vous assure qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'agnostics et d'athées pour lesquels je ne peux pas avoir, pour lesquels je peux éprouver de l'amour, mais pas beaucoup de respect. Je répète, pour lesquels j'éprouve de l'amour, mais pas beaucoup de respect. Ma fille qui enseigne parle souvent de Dieu dans ses cours, puis elle dit à ses élèves, voyez cette feuille de papier. Il y a derrière cette feuille de papier, il y a une intention. Quelqu'un a voulu la faire, cette feuille de papier. Et c'est une entreprise ensuite qui l'a produite. Voyez mon vêtement. Derrière ça, il y a une intention. Voyez cette chaise. Derrière cette chaise, il y a une intention. Voyez ce piano. Derrière ce piano, il y a une intention. Voyez mes lunettes. Derrière ces lunettes, il y a une intention. Voyez ce bâtiment. Derrière ce bâtiment, il y a une intention. Comment se pourrait-il que derrière notre univers, qui malgré quelques ratés, fonctionne tellement bien, remarquablement bien, il n'y ait pas une intention? C'est impensable. C'est impensable qu'il n'y ait pas d'intention derrière cet univers merveilleux avec sa mécanique céleste. Et bien sûr, cette intention, elle émane de Dieu. Omnipotent, omniscient, parfait créateur. L'être humain ne crée rien. Évidemment, cette chaise n'a pas été produite directement par Dieu, mais par un être humain. Mais nous ne faisons, nous, êtres humains, que transformer le préexistant. Il a bien fallu du bois ou du plaqué. Il a fallu des éléments métalliques, etc. Mais nous les avons puisés dans la nature. Nous ne faisons, êtres humains, dans nos créations qui, au demeurant, sont parfois merveilleuses et magnifiques, pas toujours, eh bien, lorsque nous produisons, nous ne faisons que transformer l'existant, transformer l'existant. Et vous savez ce qui est extraordinaire, dans les versets de la Bible qui parlent du Dieu créateur, vous avez une preuve, vous savez, je me suis rendu compte de ça seulement cette semaine. Il y a une preuve supplémentaire de la Trinité, dans le fait que Dieu est trinitaire, dans l'attribut Dieu créateur. Je vais vous le prouver. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11 et au verset 36, il est dit, en parlant de Dieu le Père, il est dit de lui, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » C'est l'apôtre Paul qui s'exprime ainsi. Je répète, parlant de Dieu le Père, Paul dit, « C'est de lui, par lui et pour lui. » En lui que sont toutes choses. Plus loin, dans une autre épître, c'est celle aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 15 à 16, Paul s'exprime ainsi. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est extraordinaire, hein? Dans un contexte qui est celui de l'Épître aux Romains, Eh bien, Paul dit que toutes choses ont été créées par Dieu, par lui et pour lui. Et le même apôtre, dans une autre épître, dit « Toutes choses ont été créées par Jésus-Christ et pour lui. » La Trinité qui apparaît une fois de plus d'une façon absolument magistrale dans ce petit développement. Dieu est aussi évident. Oh, ça va faire grincer quelques oreilles, pas chez vous, mais à l'extérieur, si on m'entendait, comment Dieu est évident? Oui, moi, vous savez, je ne suis pas trop existentialiste. Moi, je pense que la foi n'est pas tellement un saut dans le vide. Hein. Non, Dieu est évident. Dieu est évident. L'Écriture dit clairement que Dieu est évident. Oh, ça lui arrive de se cacher, on est d'accord. Hein. Il ne parle pas toujours, hein. Ça c'est sûr, mais malgré tout, il est évident. Et l'Écriture en rend compte d'une manière absolument magistrale. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1 et au verset 20 à 21, nous lisons ce passage qui, pour moi, figure parmi les 10 plus importants de l'Écriture. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, il est même parlé de sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, il est parlé des hommes, des êtres humains, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, hein, Paul dit que les hommes ont connu Dieu, les êtres humains connaissent Dieu, même s'ils ne sont pas croyants, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Terrible ce verset de dureté. Dieu dit, si, vous savez que j'existe. Hein? Ah, vous le savez, hein? Vous prétendez le contraire. Et vous, par toutes sortes de subterfuges, vous allez dire, oui, on ne peut pas savoir s'il existe. Mais vous savez dans votre fort intérieur que j'existe. Et néanmoins, vous ne me rendez pas gloire. Voilà la réalité biblique. Hein? Ça, ce n'est pas Jean-Pierre Grabert qui dit. C'est vraiment l'Écriture, le Nouveau Testament. Isaac Newton, très célèbre physicien, a dit un jour avec beaucoup de pertinence, « En l'absence de toute autre preuve, la simple considération de mon pouce suffirait à me prouver l'existence de Dieu. » Tellement c'est subtil, tellement c'est extraordinaire ce fonctionnement. Dieu est aussi source de toute vérité, tout en étant lui-même la vérité. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, constitue la source ultime de toutes les vérités et de la vérité, et dans tous les ordres de la vie humaine, même dans le domaine scientifique. Vous connaissez, certains d'entre vous ont quelques souvenirs de leur temps d'école, et on vous a enseigné le théorème de Pythagore. On connaît le théorème de Pythagore, hein, voilà, théorème de Pythagore. Bien sûr que c'est un être humain grec, en l'occurrence, qui l'a inventé, mais il a découvert ce qui existait. Il a découvert la loi, mais pas la réalité qui se cache derrière cette loi. Donc, ultimement, l'auteur du théorème de Pythagore est Dieu lui-même. Mais Dieu aime tellement faire de l'être humain son collaborateur, celui qui collabore avec lui, qui lui dit, je te fais plaisir. Tu vois, il y a une loi là, essaye de la découvrir. Ça me fait très plaisir si tu la découvres. Mais elle est là, hein? Vas-y, donne-toi de la peine, applique ton intelligence. Et aujourd'hui encore, on découvre de nouvelles lois. Mais ces lois ne font que refléter des réalités préexistantes qui viennent de Dieu lui-même. Vous savez, au sujet de cette vérité, il y a une affirmation biblique qui peut choquer beaucoup de gens aujourd'hui. Dans une époque de syncrétisme où l'on prétend que toutes les vérités se valent. Vous savez ce qu'a dit Jésus-Christ, le chef de l'Église, qui pourtant était un homme et Dieu en même temps, mais d'une grande humilité. Lorsqu'il était sur terre, le Christ était, dans le fond, habité par une très grande humilité. Eh bien, cet homme-Dieu qui était habité par la plus grande des humilités, il était plus que nous tous, humble, il a dit, c'est paradoxal, hein, lui, la quintessence de l'humilité, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Incroyable, Le roi de l'humilité, il dit, je suis la vérité. Ça, c'est vraiment un paradoxe exceptionnel. Il est aussi saint dans son essence. Dieu est un être moral. En lui, par exemple, le psaume 99, le verset 5, nous apprennent que Dieu est saint, qu'il n'y a aucune trace de mal en lui. Ça, c'est pour, je crois que j'en ai recensé 11, attributs théologiques. Je les qualifie ainsi, j'ai inventé ce mot, enfin, j'ai utilisé ce mot, dans le fond, pour vous dire quels étaient les attributs de Dieu qui ne sont pas forcément liés à son statut de personne. Quand on dit que Dieu est omniscient, c'est encore pas ça qui nous montre qu'il est une personne, alors que nous savons qu'il est omniscient. Quand on dit qu'il est omnipotent, qu'il est détenteur de la vérité, un grand philosophe peut aussi disserter à perte de vue et avec beaucoup de pertinence et d'intelligence sur l'omniscience de Dieu, sur son statut de source de toute vérité. Mais maintenant, je pense que ça va vous intéresser encore davantage un peu, j'aimerais vous montrer quels sont, au-delà des attributs théologiques de Dieu, quels sont les attributs de Dieu en tant que personne. Au travers des écrivains sacrés, donc de ceux qui ont écrit la Bible, Dieu lui-même se présente au travers non seulement de ses attributs théologiques, mais aussi de ses attributs en tant que personne. Je l'ai déjà dit, Dieu ne se réduit pas à une puissance extraordinaire, à une force organisatrice. C'est vrai que Dieu est une force organisatrice, un architecte absolument remarquable. Mais il n'est pas que cela. Il n'est pas que cela. Par l'Ancien Testament comme par le Nouveau, nous apprenons, et ça je pense que c'est notre devoir de chrétien de répandre cette vérité dans la société, nous apprenons que Dieu est avant tout une personne. Une personne. Il est doué d'une personnalité avec propre, il est délimité. Bien sûr que Dieu est infiniment grand, mais quand même c'est un être, c'est un être qui est délimité. Il est omnipotent, il peut être partout par le Saint-Esprit, mais lui-même est une personne douée d'une volonté et douée de sentiments. Dieu a même des sentiments. Dieu n'est pas une machine, un robot. Un super ordinateur, c'est une personne. Dieu est une personne. Il est possible, par le raisonnement théologique, mais aussi par le raisonnement tout court, mais je dirais en l'occurrence plus particulièrement par le raisonnement théologique, il est possible de prouver que Dieu est une personne, sans même lire la suite dans l'Écriture. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 26 et 27, nous pouvons lire ceci. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Je crée l'homme, Dieu, à notre image. » Vous vous rappelez aussi au sujet de la Trinité, à notre image, Père, Fils et Saint-Esprit. « Faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. » Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Mais à partir de cette grande vérité biblique, nous pouvons affirmer que ce qu'il y a de meilleur en nous se retrouve en lui. Et ainsi, nous sommes des personnes, puisque nous sommes des personnes, lui aussi est une personne. Comme nous sommes habités par une volonté, lui aussi, puisqu'il nous a créés à son image, est aussi habité par une volonté. Et puisque nous éprouvons, c'est pas mal ça, et puisque nous éprouvons des sentiments, puisqu'il nous a créés à son image, lui aussi éprouve des sentiments. Les meilleures de nos caractéristiques et celles qui sont neutres à l'égard du bien et du mal, et qui sont en nous, ces caractéristiques-là se retrouvent en lui, à l'état de perfection. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de Dieu en tant que personne ? Il est comment en tant que personne? Je rappelle, maintenant je ne vais pas vous dire quelles sont ses caractéristiques théologiques dans le fond, quasi philosophiques, mais il est comment, lui, en tant que personne? D'abord, il éprouve des sentiments. Je vous assure que j'avais 10 versets au moins dans l'Écriture qui me permettaient de vous dire que Dieu est habité par des sentiments, comme des sentiments humains, mais en toute pureté et en toute perfection. J'en cite un seul de ces versets. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul écrit ceci au chapitre 2 et au verset 5. Je vous exhorte donc, frères, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ici, il ne dit pas la pensée, il ne dit pas le dessein, les objectifs qui étaient en Jésus-Christ, mais ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ensuite, ce Dieu trinitaire, il éprouve parfois de la jalousie. Eh oui, il y a une mauvaise jalousie, mais aussi une saine jalousie. Ça existe, hein, une saine jalousie. Hein. Il y a la mauvaise, mais aussi la bonne. Hein. Il est parfois animé d'une légitime jalousie. Et les versets de la Bible qui nous montrent que Dieu est animé par la jalousie se comptent en dizaines et en dizaines. J'en cite un. Dans Deutéronome, au chapitre 32, au verset 16, nous pouvons lire ceci. Les Israélites, les Israélites, ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité, on peut irriter Dieu, ils l'ont irrité par leurs abominations. Dieu est un être, une personne qui éprouve la jalousie, comme nous aussi nous pouvons l'éprouver. Eh bien, il éprouve souvent de la tristesse. Dieu lui-même éprouve beaucoup de tristesse. Ce Dieu trinitaire, souvent lorsqu'il constate le mal et les péchés qui règnent dans ce monde, les péchés qui se multiplient, les péchés aussi, il faut le dire, dans nos propres vies, cela l'attriste. Hein. Cela l'attriste au point que Paul a écrit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce passage célèbre se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 30. Hein. N'attristez pas par vos bêtises, par vos errements. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous lui faites mal. On se fait du mal à soi-même quand on fait des bêtises, hein, quand on pêche dans le langage théologique. Mais en même temps, on attriste Dieu. On attriste Dieu en même temps. Hein. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, là on voit que le Saint-Esprit, hein, on peut l'attrister. Dieu le Père est triste parfois. Jésus le Fils aussi a ressenti beaucoup de tristesse lors de son passage de 33 ans, un tiers, sur cette terre. Avant de mourir pour nos péchés volontairement, eh bien, il a éprouvé une très grande tristesse. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26 et au verset 38, nous pouvons prendre connaissance de ces paraboles ou de ces paroles célèbres du Christ avant de mourir, vous vous rendez compte? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il était très triste. Hein. Il s'est pas dit, maintenant écoutez, je vais mourir, je suis tout puissant, hein, d'ici quelques deux heures, je vais ressusciter, ça va le faire, comme on dit dans le langage du début du 21e siècle, hein, ça va le faire. Non, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillé avec moi. Il n'a vraiment pas triché. Hein. Non, il a éprouvé une tristesse fondamentale quelques heures avant de mourir. Ce Dieu, il a une autre caractéristique qu'on retrouve chez les humains. Il se met en colère. On n'aime pas l'entendre, hein, mais Dieu peut se mettre en colère. Cela résonne de manière négative à nos oreilles. Nous apprenons ainsi que la colère de Dieu s'enflamma fortement, surtout contre quoi? Contre les murmures, contre les illégitimes gémissements du peuple d'Israël. Vous trouvez ça, par exemple, dans le livre des Nombres, au chapitre 11 et au verset 10. Quand nous râlons, excusez-moi du terme, trop, quand nous nous plaignons trop, hein, quand nous gémissons, parfois quand on a mal, c'est normal de gémir, mais quand nous exagérons dans nos murmures, dans notre manque de reconnaissance, eh bien, Dieu peut se mettre en colère, comme il l'a fait autrefois à l'égard du peuple d'Israël. Heureusement que cette colère est limitée et que Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. car sa miséricorde et sa bonté surpassent sa colère, comme on peut le lire dans le psaume 103 et au verset 8. Et aussi, la colère de Dieu, ça c'est une chose qui donne à réfléchir, même quand on est croyant, parce que vous savez, nous sommes tous dans cette situation de connaître de nombreux non-croyants que nous aimons beaucoup. C'est rare d'avoir une famille parfaitement homogène dans le monde spirituel. Hein. Si vous prenez vos familles au sens large, eh bien, il y en a quand même toujours quelques-uns qui ne croient pas. Hein. Peut-être parfois vous êtes même le seul à croire ou la seule. Mais enfin, hein, on vit dans un monde hétérogène à ce niveau-là. Les familles sont composites. Il y a des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas. Et vous savez, ce qui me fait toujours réfléchir, c'est ce verset de la Bible que je trouve assez dur, mais il fait partie de la vérité. Alors je lis ce verset dur qui parle de la colère de Dieu et qui s'applique à des gens que nous aimons. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 36, nous lisons ceci. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, pas aura un jour. Hein. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie ou ne verra pas la vie. » Mais ce qui est terrible, hein, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, moi, ça me fait mal. Hein. Ah, je vous dis franchement, ce n'est pas avec grande aisance et avec beaucoup de plaisir que je lis ce verset de l'Écriture. Vous vous rendez compte? La colère de l'Éternel demeure sur ceux qui ne croient pas dans le Christ. Ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir. Heureusement, je l'ai déjà dit, Dieu est lent à la colère, mais il fait preuve de grande modération dans l'usage de sa colère. On en a un magnifique exemple dans le livre d'Osée, au chapitre 11 et au verset 9, de cette modération de Dieu lorsqu'il laisse libre cours à sa colère. Il dit, « Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. » Je ne viendrai pas avec ma colère, alors qu'il avait toutes les raisons de venir avec sa colère. Il dit, mais je ne viens pas avec ma colère. Il se restreint lorsqu'il s'agit d'appliquer sa colère. On doit quand même le dire, en dépit de l'immense amour de Dieu, et en dépit de toute sa modération, il arrivera un temps historique où malheureusement Dieu laissera libre cours à sa très juste colère pour un temps très limité. Cela se passera quand? Eh bien, dans un temps au cours duquel Dieu enverra sur une humanité profondément et sciemment rebelle une succession de jugements terribles. Il suffit de lire le livre de l'Apocalypse. Moi, je suis de ceux qui ne pensent pas que l'Apocalypse ne présente qu'une dimension pédagogique. Je pense que l'Apocalypse présente aussi une dimension historique, pas seulement pédagogique. C'est pas seulement écrit pour nous dire « Fais attention, si tu fais ça, il se passera ça. » Non, ça c'est la dimension pédagogique de l'Apocalypse. Mais je pense qu'un jour, ce livre, ou ces prophéties plus exactement, vont se réaliser. Et là, il est parlé 15, 20, 30 fois de la colère de Dieu. Je prends un seul passage que vous trouvez dans ce livre de l'Apocalypse au chapitre 6 et au verset 17. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Ça va durer, pour ceux qui s'intéressent beaucoup aux prophéties, probablement 3 ans et demi. C'est quand même assez long. Une autre caractéristique de Dieu, touchante, incroyablement touchante, le repentir. Extraordinaire. C'est bon d'en parler juste après avoir évoqué la colère de Dieu, telle qu'elle apparaît dans le livre de l'Apocalypse. Dieu, dans la Bible, si vous lisez bien, je crois que ça apparaît 14 fois, seulement dans l'Ancien Testament, Dieu s'est repenti d'avoir parfois infligé des situations douloureuses. Il s'est repenti. C'est pour moi extraordinairement émouvant, dans le fond. Et cela semble même entrer en contradiction avec d'autres attributs de Dieu tels que l'omniscience. Dieu est vraiment omniscient. Et pourtant, parfois, il se repent. Pour nous, humains, il est presque impossible de concilier l'omniscience de Dieu histoire tracée au cordeau à l'avance qu'il connaît parfaitement, avec le fait que parfois il se repent des situations douloureuses qu'il a infligées. En Ésaïe, au chapitre 32, au verset 14, nous lisons ceci. « L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Donc là, il se repent avant d'avoir infligé. Il avait le projet, le dessein d'infliger du mal pour des raisons pédagogiques. Puis là, il dit « Oui, quand même pas. Quand même pas. » Il se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir leur infliger. C'est quand même extraordinaire. Dieu se repent parfois. Événement à peine croyable pour qui a une vision un peu complète de l'Écriture, il est même arrivé à Dieu d'avoir regretté d'avoir créé l'homme. Ça paraît incroyable. Hein? Vous savez, les hommes, ils ont assez tôt commis de grandes bêtises. Ils se sont adonnés à des errements tout à fait regrettables et condamnables. Hein? Dieu les a créés et Dieu, dans son omniscience, savait parfaitement à l'avance que les bons choix ne seraient pas toujours effectués par l'humanité et par chaque être humain pris spécifiquement. Eh bien, Dieu, à un moment donné, il s'est dit, mais c'est incroyable, ce déferlement de mal, cet invraisemblable éloignement par rapport à moi. Alors, quel sentiment cela a-t-il incité en lui ou réveillé en lui? Nous en prenons connaissance dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est incroyable. Hein? Oui, j'aurais pas dû le faire. Ouais, dans le fond, j'aurais pas dû les créer. Quand même, quand je vois ce qui se passe. Hein? Mais pour, l'aventure a quand même continué. Dieu merci, c'est le cas de le dire. L'aventure a continué, mais quand même, ce Dieu qui se repent d'avoir créé l'homme, ça figure dans l'Écriture, hein? Ça figure dans l'Écriture. Mais nous venons de voir que Dieu est parfois triste, qu'il se met en colère, qu'il est jaloux, mais vous savez, il est heureux, il est comme nous, il est comme nous. Nous, parfois on est triste, parfois on se met en colère, parfois on est jaloux, mais on est aussi heureux. Triste quand même de ne jamais l'être, hein? Je peux comprendre qu'on ne le soit jamais si on est très gravement malade. Mais dans la norme, un être humain, heureusement, éprouve quand même de temps en temps le bonheur, même si c'est furtivement. Alors, dans la première épître à Timothée, au chapitre 1 et au verset 11, nous apprenons que Dieu est bienheureux. Toujours l'apôtre Paul qui nous dit que Dieu est bienheureux. Et surtout, Dieu prend plaisir. Quand il regarde l'humanité, parfois il se dit, c'est incroyable, le mal qu'ils font, c'est pas possible. Hein, ou comme je viens de le dire, au point de dire, j'aurais peut-être pas dû les créer, hein, mais enfin, ça. Mais il prend aussi plaisir. Par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 7, nous lisons ceci qui est merveilleux. C'est Salomon qui s'exprime ainsi. Va, c'est Dieu qui parle, hein, au travers de la bouche de Salomon, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. C'est la joie, le vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dieu, même quand il nous voit boire et manger, Dieu peut prendre plaisir à ces actes tout simples de la vie quotidienne. Moi, ça me fait plaisir. Ils mangent, ils boivent, ils se font plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Dieu, il dit, ça me fait plaisir. C'est bien. Même du vin, hein, donc. Hein? Moi, c'est très bien. Ils se font plaisir, ça me fait plaisir. Ils se font plaisir, ça me fait plaisir. Ce Dieu qui prend plaisir, qui est heureux, il a aussi le sens de l'esthétique. On dit souvent que Dieu est l'auteur du bien, du beau et du vrai. Le bien, le beau et le vrai. On en voit une trace magnifique dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et au verset 31. Après quelques phases, toutes les phases de la création, Dieu, en plusieurs phases, crée l'univers et il contemple son œuvre. Il n'est pas dans la posture d'un robot qui aurait dit « les côtes sont les suivantes hein? ». Largeur 37,422, hauteur 10,25. Non, Il n'est pas dans la posture du rebond, hein, pas du tout, après avoir créé. Il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ah, c'est bien, Dieu il dit, oh, c'est beau, oh, ce que j'ai fait, magnifique, hein? Ah, superbe, ah, je suis content, ah, vraiment beau ce que j'ai fait. Hein, c'est écrit dans la Bible, le livre de la Genèse, tout au début. Et on voit un Dieu qui admire sa propre œuvre et qui s'en réjouit. Extraordinaire. Hein? Dieu a le sens de l'esthétique et le sens de la contemplation de ce qui est bon. J'aimerais terminer par la plus grande caractéristique de Dieu en tant que personne. Dieu est amour. Sa plus grande caractéristique. Dieu est amour. C'est le trait sommital de sa personne. Vous savez, on peut se dire, Dieu est amour. Mais vous rigolez quand vous regardez ce qui se passe en Syrie, en Irak, dans plusieurs pays africains. Quand on voit les drames qui entourent le phénomène migratoire, quand on voit les guerres, les menaces de guerre, Dieu est amour. Mais vous n'y pensez point. Comment voudrait-on que Dieu soit amour quand on voit ce qui se passe dans le monde? Et là, j'aimerais répondre par le truchement d'un écrivain très élégant, sophistiqué, qui vit toujours, qui a 85, 87 ans, Jean d'Ormesson, oui, grand écrivain, précieux, élégant, il a une belle plume, voilà, Jean d'Ormesson. On lui a demandé, un journaliste lui a demandé, je l'ai vu ça, hein, donc j'ai été le témoin oculaire, je n'ai pas été dans la salle, mais je l'ai vu à la télévision, il y a quelques mois seulement. On lui a demandé, alors, Dieu dans tout ça, Jean d'Ormesson, comment peut-on croire en un Dieu quand on voit le déferlement de mal sur cette terre? Et puis, il est très élégant, n'est-ce pas? Comme ça, il dit, oui, non, ça ne me pose aucun problème. C'est nous qui commettons tout ce mal. Ça n'est pas Dieu, ça ne me pose aucun problème, il a dit. Ce n'est pas le plus grand des croyants que la terre ait porté, hein, on est d'accord. Mais quand même, il a dit, oui, ça ne me pose aucun problème. Non, non, ce n'est pas lui, c'est nous, c'est nous. Bon, on peut bien se poser quelques questions sur le tsunami qui a eu lieu en décembre 2004 en Asie du Sud-Est, on peut se poser des questions. Mais ça, c'est la pointe d'un petit iceberg, hein, ou plutôt d'un grand iceberg. La plupart des maux qui déferlent sur l'humanité ont leur origine, évidemment, en l'homme, en l'être humain, pas en Dieu, en l'être humain. Voilà. Alors Dieu, malgré quelques apparences contraires, est fondamentalement, foncièrement amour. Vous connaissez le verset le plus court de la Bible, trois mots, entre deux points. Dieu est amour. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Hein. Il se définit lui-même comme ça. Dieu, je suis amour. Dieu est amour. Dieu aime. Il aime d'un amour éternel et, n'ayons pas peur des mots, gigantesque. Dieu aime d'une manière gigantesque. C'est probablement son amour qui l'a conduit, qui l'a incité à créer l'homme. C'est son amour qui l'a incité à créer l'homme. Pourquoi ? Pour avoir un vis-à-vis. Enfin, il l'avait déjà, dans le fond, dans la réalité de la Trinité, mais il a voulu étendre cela. J'aimerais avoir des vis-à-vis. Vous vous rappelez un verset magnifique de la Bible ? Paul dit, « Nul de vous ne vit pour lui-même. Hein? » Nul de vous ne vit pour lui-même. Apôtre Paul. Mais Dieu, dans le fond, il s'est dit, j'aime, hein, une source jaillissante d'amour, j'aime. Eh bien, pour concrétiser cet amour, pour que je puisse le déployer, j'aimerais bien avoir des vis-à-vis et entrer en dialogue avec eux. C'est ça, la création de l'être humain procède de l'amour de Dieu. Hein, hein, la création procède de l'amour de Dieu. Et comment se révèle cet amour? Comment est-ce qu'il se manifeste? Rassurez-vous, c'est bientôt fini. Comment se manifeste cet amour de Dieu? De plusieurs manières. Tout d'abord, Dieu, nous l'avons déjà vu, aime faire plaisir. Il aime faire plaisir. Il aime. Il aime nous combler de ses bienfaits. dans les psaumes, et particulièrement dans le 78e au verset 29, nous pouvons lire ceci. Ils mangèrent, c'est curieux, c'est toujours, ça va avec la nourriture de nouveau ici. Hein. Ils mangèrent, mais c'est pas dans, avant c'était l'Ecclésiaste, hein, c'est un autre auteur, David probablement ici. Alors, ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. C'était même pas forcément bon pour leur ligne, puisque c'était abondamment, hein, ils mangèrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Et on voit que ce Dieu prend plaisir à ce qu'ils font. Ils veulent manger, moi, ça leur fait du bien. Puis moi, ça me fait plaisir. Prenez, je fais en sorte, hein, que vous puissiez vraiment manger, boire et vous réjouir. Des centaines, voire des milliers de paroles bibliques nous montrent que le Seigneur désire ardemment répandre et prodiguer ses bénédictions. Mais cet amour se conjugue encore autrement, se décline encore autrement. La miséricorde et la compassion du Seigneur dérivent de son amour. Dieu est miséricordieux et compatissant, et ces deux qualités dérivent clairement de la de l'attribut originel qui est son amour. Après l'Ancien Testament, qui nous parle déjà abondamment de l'amour de Dieu, le Nouveau, bien sûr, ajoute, abonde et révèle cette miséricorde divine dans plusieurs passages. Prenons toujours un écrit de Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il est non seulement dit qu'il est de son amour, mais du grand amour. Hein, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc il est miséricordieux. Pourquoi ? Parce qu'il aime. Hein. Là, le rapport de causalité entre miséricorde et amour est clairement établi. Il est miséricordieux parce qu'il aime. Souvent, l'amour de Dieu, qui est universel, hein, cet amour de Dieu est universel, présente un caractère objectif par rapport à nos comportements, par rapport à nos dispositions de cœur. Il est objectif, cet amour. Pourquoi l'Écriture dit « Dieu ne fait exception de personne ». Il ne tient pas compte des statuts sociaux, du genre des personnes, du niveau intellectuel. Dieu ne tient pas du tout. Il aime qui que nous soyons. Il aime quelles que soient nos origines. Il aime quels que soient nos talents. De ce point de vue, l'amour de Dieu est objectif et universel. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est la cerise sur le gâteau de ma petite intervention de ce matin, l'amour de Dieu est parfois subjectif. Ce qui paraît aux yeux des gens les plus légalistes et les plus égalitaristes, un pur scandale. Mais l'amour de Dieu revêt parfois une dimension subjective. Il est objectif, cet amour. Mais il est aussi, et c'est là qu'on voit Dieu est extraordinairement équilibré. Il est extraordinairement complet, exhaustif, tout. Hein, il est extraordinaire. Alors, la Bible nous montre que cet amour, comme je viens de le dire, revêt parfois une dimension subjective. Et plus que tout autre attribut de Dieu, la dimension subjective nous prouve à l'envi que Dieu est une personne. Hein, nous aussi, écoutez, nous sommes appelés à aimer tout le monde en tant que chrétiens. Mais personne, s'il est honnête avec lui-même, ne peut dire « j'aime tout le monde exactement de la même manière ». Personne. Même le plus pur parmi nous ce matin ne peut pas dire « j'aime tout le monde de la même manière ». Personne. Personne. Vous avez un passage du Nouveau Testament qui illustre merveilleusement bien la dimension, parfois, pas toujours, hein, mais parfois subjective de l'amour de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 21 à 25, ce passage extraordinaire. On est près de la crucifixion de Jésus, quelques heures avant. J'en ai juste quelques heures avant. Et un des douze qui est à table avec lui pour partager le dernier repas va le trahir. épisode très bien connu. À ce sujet, nous lisons ceci. Et quand on lit ça, on pense tout de suite à Judas. Hein. Quand vous verrez, quand vous lisez ce passage, vous pensez à Judas. Il y a aussi quelqu'un à qui il est fait allusion, c'est Jean. Mais ce n'est pas lui qui apparaît en premier. Hein. Mais vous verrez, une fois, je vais prendre le secondaire pour le monter en épingle. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Nous, on va lire ça avec des jumelles quasiment. Hein. « L'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres. Hein. « Mais c'est qui ? C'est moi ? Tu crois que c'est toi ou bien ?» Voilà, « l'un de vous me trahira. » Voilà. Un des disciples, c'est Jean, hein, il est modeste hein, parce que c'est lui qui écrit l'évangile selon Jean, alors il n'utilise pas son propre nom. Il dit, un des disciples, mais alors là il est audacieux, hein, il dit, celui que Jésus aimait, puis il parle de lui-même. Hein, donc hein, ici, il parle de lui-même, hein, Jean parle de lui-même, hein, mais il n'ose pas par modestie utiliser son propre nom. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. On voit souvent des peintures qui nous montrent Jean le préféré, n'ayant pas peur des mots. Sur les 12 apôtres, il était le préféré du Christ. Et il était probablement le plus jeune aussi. Il se mettait comme ça un peu, il posait sa tête sur ses jambes ou comme ça. On voit des peintures qui le... On ne sait pas si ça s'est passé exactement de cette manière-là, mais disons que c'est une peinture qui me semble très révélatrice de cette réalité. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui dit de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce hein? » Et vous rendez compte, l'apôtre Jean est appelé le disciple que Jésus aimait. Hein? Et ça, c'est l'amour subjectif de Dieu. Le Christ lui-même était habité par une forme d'amour subjectif, sans du tout être injuste, sans absolument être injuste. Mais lui-même, le Fils de Dieu, dans toute sa perfection, était habité par une dimension subjective de l'amour. Jean, viens mon petit, je t'aime bien toi. Hein. Enfin, les autres, il les aime aussi, hein, ça c'est sûr, il a donné leur vie pour tous, hein, mais... Voilà la dimension subjective de l'amour de Dieu. Donc, on voit ce Dieu écrasant par sa grandeur, génial, grandiose, majestueux, inaccessible. Ce Dieu est habité par une dimension subjective de l'amour. C'est extraordinaire. Ça vous donne un tableau d'ensemble tout à fait extraordinaire. Dieu, à l'exception du mal, est vraiment tout, hein. Dieu, à l'exception du mal, est tout, tout, dans toute sa richesse insondable. Pourquoi est-ce que Dieu a une dimension subjective dans son amour? Mais comment peut-il, dans le fond, déployer un amour de type subjectif tout en restant parfaitement juste? On peut se poser la question. Eh bien, je pense que Dieu a permis cet épisode... le Christ lui-même, pour montrer qu'il est lui-même détenteur de la royauté absolue et qu'il fait ce qu'il veut. Je pense que Dieu montre que son amour est parfois subjectif pour nous montrer à nous humains que c'est lui le patron et qu'il fait ce qu'il veut, en étant juste, hein, mais qu'il fait ce qu'il veut. L'Épître aux Romains au chapitre 9 et au verset 15 nous rappelle très clairement que Dieu est juste, hein, mais il n'a de compte à rendre à personne et il fait ce qu'il veut. Je crois qu'il faut oser l'affirmer. En dépit de son immense sainteté, en dépit de son immense justice, Dieu n'a de compte à rendre à personne et il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Regardons. Il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Vous voyez, je vous aime, mais je fais ce que je veux. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Maintenant, et je conclue par là, comment nous situer face à une telle grandeur? Comment nous situer face au fait que Dieu est une personne et non pas seulement une force impersonnelle, un talent organisateur, un architecte hors pair? Comment nous situer par rapport à cette réalité? Je serai obligé d'être bref à cause du temps qui passe. Eh bien, je pense que Dieu nous dit, je suis une personne, aime-moi. Hein? Personne n'aime un robot. Bon, juste pour aller s'amuser un petit peu, c'est beau, ou bien un peu un ordinateur super perfectionné, on prend un peu la poussière, on aime bien un ordinateur, même s'il est très doué, il donne des renseignements à l'envi, tout ça. Mais personne n'aime un ordinateur. Presque tout le monde, s'il a le choix entre un chat et un ordinateur, il va préférer le chat. Parce que dans un certain sens, un chat est une personne, enfin, avec des attributs restreints d'une personne. Mais quand même, un être humain normalement constitué, il préfère un chat à un ordinateur. Voilà. Eh bien, Dieu nous dit, je suis une personne, aime-moi. Parce que je suis une personne, aime-moi. Hein? Parce que je suis une personne, aime-moi. C'est ça le message. Hein? Une personne créatrice qui a créé une autre personne, l'être humain, pour que cette personne l'aime en retour. C'est ça. Hein? Dieu est une personne qui dit à nous, autres personnes, aimez-moi. Aimez-moi. Et je conclue par ce verset de l'Écriture. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, hein, pas seulement intellectuellement, hein, non. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Hein. Mais Dieu, dans le fond, il quémande presque, il nous dit, aime-moi. Oh, ça me fait, aime-moi s'il te plaît, aime-moi. Voilà. Et puis ça veut dire quoi, aimer Dieu? Eh bien, moi, je pense que aimer Dieu, ça présente une dimension objective et subjective. Aimer Dieu, c'est à la fois objectif et c'est subjectif. C'est quoi la dimension objective de l'amour que nous devons à Dieu, que nous devons porter à Dieu? C'est lui obéir. Ça, c'est la dimension objective de l'amour que nous devons à Dieu, auquel nous sommes invités. Nous sommes invités à l'aimer objectivement, c'est-à-dire nous sommes invités à lui obéir. Mais nous sommes aussi invités à l'aimer subjectivement, affectivement, affectueusement. Ça, c'est la dimension subjective de l'amour que nous devons à Dieu. Et c'est ce à quoi j'aimerais nous inviter tous. Et il y a bien du chemin à faire, à commencer par moi-même. J'aimerais tellement que nous puissions aimer Dieu davantage objectivement, mais en obéissant plus, mais aussi davantage subjectivement, en l'aimant vraiment comme nous aimons plus même les êtres que nous aimons le plus sur cette terre. Voilà, je vous remercie de votre patiente attention. Et j'aimerais maintenant juste prier avec vous encore. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu véritablement extraordinaire. Tu es saint, tu es juste, tu es amour, Seigneur, tu es omnipotent, omniscient, et pourtant tu es une personne. Tu as des sentiments, Seigneur, tu nous aimes, tu es miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il t'arrive d'être irrité par nous, nous t'en demandons pardon, Seigneur. Il t'arrive de te mettre en colère, et nous ne pouvons que dire cela est juste. Mais Seigneur, cette colère, comme tu le dis dans ta parole, ne dure qu'un instant. Merci d'être modéré dans l'expression de ta colère. Seigneur, merci surtout parce que, comme le dit l'Écriture, tu nous as aimés le premier. Nous t'adorons, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi et nous te disons, tu es un Dieu merveilleux, dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Et Seigneur, je te demande maintenant de bénir toutes les personnes ici présentes, sans aucune exception, de les bénir dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, et de les accompagner dans cette journée, dans la semaine qui vient, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, et jusqu'au terme de leur vie terrestre, avant de les accueillir dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen.